こんにちは、せっかく同時通訳の方がいらっしゃるので最初に少し日本語でご挨拶を申し上げたいと思います。今日、ここのフォーラムにはたくさんの20年、30年以上放射能について研究されてきた方がいらっしゃる。
Des personnes qui font des recherches sur la radioactivité depuis 20-30 années. Des experts de renom sont présents parmi nous aujourd'hui. Et dans ce sens, enfin, dans ce contexte, je ne suis qu'un simple journaliste. Toutefois, j'aurais voulu faire entendre la voix de la société civile japonaise. Ce matin,
Paul Rouillot nous a parlé, ainsi que le docteur Matsui nous fait des commentaires à ce sujet. Alors, je vais peut-être répéter ce qui a déjà été dit par eux, mais j'ai préparé une présentation en français et je vais donc le faire en français.
Je vais commencer à parler en français puisque j'ai préparé mon texte en français. Pour comprendre le bilan actuel du nucléaire au Japon, il faut remonter au temps de Hiroshima et Nagasaki. Cela nous permettra de comprendre, de nous rendre compte à la fois comment le nucléaire a pu être introduit au Japon après cette double tragédie, comment la question des effets de faible dose a été écartée et niée, comment la colère des victimes de ces bombes atomiques a été refoulée sous l'effet d'une double contrainte, selon les termes de Gregory Bateson, par la culpabilité de la guerre coloniale et par la soumission au régime impérialiste, et enfin, comment les mouvements antinucléaires n'ont pas pu faire barrage à la menace nucléaire. Après les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, les Américains ont imposé le silence aux victimes, leur ont interdit de témoigner devant la presse pendant 7 ans. Pendant ce temps, l'organisation américaine ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, ont été soigneusement sur les blessés, les irradiés, sans pour autant leur apporter les soins nécessaires. Dans les enquêtes d'ABCC, les irradiés qui étaient en dehors des 2 km par rapport à l'épicentre de l'explosion n'ont pas été traités comme des irradiés puisque les symptômes qu'ils représentaient étaient nettement moins spectaculaires. Les habitants à l'extérieur de la ville de Hiroshima, mais qui ont reçu la pluie noire, ou les personnes qui ont entré dans la ville après l'explosion, n'ont pas été traités comme des irradiés. Par conséquent, un certain nombre d'indices importants des faibles doses a été considéré comme négligeable. Et seulement les résultats des enquêtes sur la zone, dans la zone de 2 km ont servi de base aux normes internationales de la radioprotection. Entre-temps, les États-Unis ont multiplié les essais nucléaires, y compris sur leur propre territoire, ce qui a été provoqué l'indignation dans le monde entier et la création de mouvements antinucléaires. Pour calmer cette indignation, le président américain de l'époque, Eisenhower, a prononcé un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1953, intitulé « Atom for Peace ». Le 1er mars 1954, les États-Unis avaient effectué un essai nucléaire à hydrogène qui s'appelle Bravo, 1000 fois plus puissant que la bombe de Hiroshima, sur l'atoll de Bikini, dans l'océan Pacifique, sans avertir personne. Plusieurs centaines de bateaux de pêche se dirigeaient vers la zone d'essai. Les pêcheurs de thon de bateaux japonais Daigo Fukuryumaru ont été gravement touchés. Ils ont tous eu le corps recouvert de cendres fallout hautement radioactives. Les conséquences ont été importantes. Les tons transportés par ces bateaux étaient totalement irradiés, les nombres de bateaux ont été hospitalisés et M. Kuboyama Aichi, responsable de la communication radio, gravement irradié, est décédé 6 mois plus tard. Les Japonais ont été, n'ont pas été les seuls à être irradiés. Sur l'île de Nongla, où vivaient plusieurs centaines d'habitants, s'est abattue une pluie de cendres qui ont recouvert le sol sur 3 cm, mais ils n'ont été abandonnés sans secours pendant 50 heures sous une radioactivité intense. Ils ont été déplacés sur une autre île, mais après 58 ans, c'est-à-dire aujourd'hui encore, ils ne sont toujours pas reconnus officiellement comme irradiés et ils n'ont obtenu aucune indemnisation ni soins particuliers. Jusqu'en 1954, il n'y avait aucun mouvement antinucléaire au Japon, c'était interdit. C'est seulement après la tragédie de Daigo Furumaru qu'un petit groupe de femmes de Tokyo, indignées par cet événement, ont commencé à pétitionner contre la bombe atomique nucléaire. Et ce mouvement a eu une audience très forte dans tout le Japon, ce qui a permis de mettre en place une instance permanente de mouvement antinucléaire à Hiroshima, Gensuikyo, l'année suivante. Les Américains, inquiets de ces mouvements antinucléaires japonais de protestation de plus en plus forts contre leur essai nucléaire, se sont mobilisés pour le bloquer. Et leur stratégie a été séparer le discours sur le nucléaire civil et celui sur le nucléaire militaire, en mettant en avant l'utilisation de nucléaire civil pour produire de l'énergie pour la paix, stratégie pour laquelle je reviendrai tout à l'heure. En revanche, au lendemain de cet essai américain ayant provoqué l'irradiation de bateau Daigo Furumaru, le politicien conservateur Nakasone Yasushiro, futur premier ministre des années 1980, partisan de créer un arsenal nucléaire, a déposé un projet de développement de nucléaire militaire sans tenir compte de la colère de la population japonaise. À ce moment-là, d'une part, les autorités japonaises avaient réellement voulu développer le nucléaire militaire. Un budget de 235 millions de yens, correspondant exactement au chiffre de nom d'uranium 253, a été voté. Dans la présence de ce projet à l'assemblée plénière de la chambre pâle, le député Koyama Kuranosuke a clairement affirmé que ce budget avait été demandé pour maîtriser la technique de la bombe atomique et acquérir la capacité de l'utiliser. D'autre part, les Américains imposent aux Japonais une vision pacifiste à travers le nucléaire civil pour éteindre tout mouvement antinucléaire. Les premiers ministres des années 1950 et 60, M. Kishi Nobusuke et M. Sato Isaku, ainsi que le fameux mania de médias de l'époque, Chōriki Matsutaro, PDG du journal Yomiuri, haut fonctionnaire de la police, étaient manœuvrés par la CIA comme collaborateurs. Cela n'est pas un roman policier, mais ce sont des faits historiques bien établis à étudier dans les archives officielles des documents diplomatiques américains. Les stratégies des Américains a été d'abord de lancer leur propre programme de dissuasion nucléaire et ensuite de guider le Japon vers le nucléaire civil tout en manœuvrant des personnalités politiques et médiatiques importantes. Ils voulaient cacher aussi les conséquences néfastes de la radioactivité, notamment celle de la faible dose. En 1957, Chōriki, le futur ministre de l'Agence des sciences et technologies, sous le gouvernement Kishi, a voulu réussir à faire une campagne pour Atom for Peace en organisant des expositions grandioses, même à Hiroshima, pour approuver la nouvelle technologie en présentant cette science comme la locomotive de développement social pour le bonheur de l'humanité. La majorité des Japonais ont été bernés par ce slogan. Ils ont accepté le nucléaire civil comme un progrès scientifique. Quant au mouvement anti-nucléaire, Densikyo, créé en 1955 après le mouvement des pétitions des femmes, il a été divisé en un courant en communiste, Densikyo, est un autre socialiste Gensuikin. En 1963, à cause des essais nucléaires soviétiques, le premier est d'accord pour l'utilisation de nucléaire pour la paix, tandis que le second est contre les deux usages. Celui-ci coopère désormais avec les mouvements antinucléaires civils. Cette division a beaucoup affaibli le mouvement antinucléaire qui a perdu sa vision globale. Le mouvement antinucléaire civil est resté actif localement dans les régions où étaient programmées des constructions des centrales. Une des luttes les plus importantes, celle contre la centrale de Shiga, a commencé en 1973 et a duré pendant 23 ans. C'est la même chose à Kaminoseki. La lutte a été soutenue par les pêcheurs d'Iwajima, l'île en face de site, dans la mer intérieure Setonaikai, qui dure encore aujourd'hui. Tous les mouvements contre la centrale nucléaire ont été facilement écrasés, puisqu'ils étaient isolés, d'autant que les communes concernées ont été subventionnées massivement par les compagnies électronucléaires. Au moment de l'accident de Tchernobyl, en 1986, le projet de Rokkasho, en 1993, les mouvements antinucléaires ont connu une petite période effervescence, mais cela n'a pas duré très longtemps. Cependant, celui contre Rokkasho existe toujours. C'est seulement dans les années 1990 qu'il y a eu une prise de conscience progressive des conséquences du nucléaire, à la fois militaires et civiles, dues aux essais, aux guerres et aux accidents. Une nouvelle notion, globale hibakusha, irradiée globale, a été apparue, qui regroupe tous les irradiés sans distinction des causes, qu'elles soient militaires ou civiles, et il y a eu un groupement des militants. Depuis, Fukushima a réveillé réellement la conscience de la population japonaise, à savoir que le nucléaire n'est pas compatible avec la santé et avec la vie. Beaucoup de monde commence à comprendre que la radioactivité et les unités de mesure micro ou millisievertes, becquerel, en faisant eux-mêmes des mesures avec leur propre compteur Geiger. Ils s'inquiètent évidemment des effets de faible dose. Bien que la mobilisation ne soit pas encore aussi forte qu'en Europe, il y a quelque chose qui est changé définitivement. Parce que les Japonais, à mon avis, ont compris que le nucléaire a explosé dans leur pays pour la troisième fois. Et que cette fois-ci, ils sont en responsables. Fukushima a sûrement provoqué le commencement de la fin de l'ère Atomic for Peace et la fin générale du nucléaire. J'espère que ce forum servirait de faire une solidarité internationale, surtout avec les scientifiques indépendants, très pertinents, comme vous, qui sont là, et nous, les citoyens. Merci beaucoup.